Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'allégresse informative portée par la gaieté et la rigueur journalistique d'Eva Rock et Céline Dacosta, qui ne sont pas aussi folles qu'on pourrait le croire, même si d'après le neurologue qui les suit à Cochin, la route est encore longue. Preuve en est cet extrait, particulièrement parlant au lendemain de la journée mondiale de la schizophrénie.
Moi, je suis pas du genre à dire des conneries, moi. Écoute, maman est près de toi. Faut lui dire, maman, c'est quelqu'un pour toi.
Comment dans une fraction de seconde vous pouvez basculer ainsi, je ne me l'explique pas. Heureusement, debout les copains, c'est aussi la parfaite santé mentale. Quoique, de Fabrice Dalméda. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin, oui c'était lui, au lendemain d'un week-end de violence sur les Champs-Élysées, où le Fouquet's a entre autres été vandalisé, les amis, ressaisissons-nous. Fabrice revient sur l'histoire de cet établissement huppé, symbole du luxe parisien.
Merci d'écouter Europe 1 ce lundi 18 mars. Excellent réveil à tous, il est 6h. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce lundi 18 mars. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
À 11h30 ce matin, Édouard Philippe va présenter ses propositions à Emmanuel Macron après un samedi de violence et d'affrontements inouïs sur les Champs-Élysées. Les dégâts sont considérables. 97 personnes doivent être présentées à la justice, 92 autres étaient toujours en garde à vue hier soir. Les opérations de lutte contre la pollution continuent au large de La Rochelle après le naufrage d'un navire il y a 6 jours. Et puis en football, le PSG s'est imposé face à l'OM hier soir en championnat 3-1.
Europe 1.
4 mois après le début des manifestations des Gilets jaunes, le mouvement semble complètement enlisé. La violence est encore montée d'un cran samedi. Les Champs-Élysées ont été saccagés, des dizaines de commerces pris pour cible, des kiosques à journaux réduits en cendres. Emmanuel Macron a promis des décisions fortes, mais lesquelles? Le gouvernement a admis des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité. Et ce matin, Édouard Philippe va présenter des solutions au chef de l'État. Hier soir, 92 personnes étaient toujours en garde à vue. 97 doivent être présentées à la justice.
Et cette information Europe 1, Céline, des passagers du train Paris-Orléans ont été arrêtés alors qu'ils rentraient chez eux.
Oui, 5 gilets jaunes, les bras chargés d'objets vraisemblablement volés lors de pillages sur les Champs-Élysées. Les détails avec Pierre de Cossette.
C'est leur fanfaronnade qui les a perdus dans le train qui les ramenait chez eux dans le centre de la France. 5 passagers qui avaient quitté Paris en partant de la gare d'Austerlitz se vantent alors d'avoir sur eux des objets volés sur les Champs-Élysées. La conversation n'échappe pas à un autre voyageur qui prévient la police. Le trajet du Quintet s'arrête donc plus tôt que prévu en gare des Aubrais, à côté d'Orléans. Les policiers les attendent et les arrêtent. Bingo, une cafetière Nespresso, une dizaine de vêtements, Hugo Boss et Célio, et un collier Swarovski provenant de boutiques dévalisées. Les suspects ne sont pas des petits jeunes, ce sont 4 femmes inconnues de la justice et un homme connu pour alcool au volant. Ils sont âgés de 40 à 55 ans. Originaire de Montluçon, dans l'Allier. Des gilets jaunes qui ont déclaré en garde à vue avoir trouvé toutes ces affaires par terre, mais jamais avoir cassé de vitrine. Ils seront jugés début juin pour recel de vol.
Pierre de Cossette, du service police-justice d'Europe 1. Et parmi les personnes qui se trouvaient sur les champs samedi, les Black Blocs, ces groupes ultra-violents qui agissent très rapidement. Ils sont généralement vêtus de noir. Question ce matin, pourquoi, alors que l'on savait qu'ils seraient présents, ont-ils pu commettre autant de dégâts? Les explications avec Jean-Jacques Herry.
Si les Black Blocs ont pu agir aussi brutalement samedi, c'est d'abord parce qu'ils étaient très nombreux. Selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 1500 individus ultra-violents infiltrés et dissimulés au sein de milliers de gilets jaunes. Autre élément qui a pu jouer en faveur des casseurs, l'empathie des manifestants. Lorsque le Black Bloc s'est formé, un regroupement d'individus très mobiles, masqués et vêtus de noir, certains manifestants ont d'abord applaudi les bris de vitrine sans forcément participer. Un relatif soutien qui a rendu plus difficile l'intervention des forces de l'ordre. Sylvain Boulouk, spécialiste des mobilisations collective, a également dénoté des changements dans le mode d'action des Black Blocs, synonyme selon lui de l'arrivée de nouveaux membres.
Je prends juste un exemple qui s'était déroulé le 1er mai. Des Black Blocs avaient tenté de mettre le feu au McDonald's. D'autres personnes leur avaient dit non, c'est un immeuble d'habitation au-dessus et ça met la vie des personnes en danger. Cette fois-ci, il y a eu le même phénomène, mais les autres Black Blocs n'ont pas pu empêcher cet incendie de la banque avec la propagation aux étages supérieurs.
Enfin, tout prouve que l'action avait été minutieusement préparée en amont. Les contrôles de police mise en place aux entrées de Paris n'ont d'ailleurs rien donné samedi dernier. Aucun marteau, aucune barre de fer n'ont été découverts. Maire.
Jean-Jacques Herry, notez que cet après-midi, Bruno Le Maire va tenir une réunion sur l'impact économique de la crise avec des organisations patronales et des représentants de commerçants ainsi que des assureurs.
Les opérations de dépollution se poursuivent dans le golfe de Gascogne près d'une semaine après le naufrage d'un navire italien.
Et les conditions météo sont très mauvaises, elles rendent les opérations compliquées. 4 navires sont sur zone, ils sont tous équipés de chaluts, un dispositif capable de récolter jusqu'à 10 tonnes d'hydrocarbures. C'est Thierry Tomaso, ancien marin-pêcheur, qui a mis au point ce système.
Depuis 15 ans, la Marine nationale a formé des marins-pêcheurs à l'utilisation du chalut Tom-Sea. Elle s'en est équipée, elle nous a acheté plus d'une centaine de chaluts. Tous ces efforts depuis 15 ans de préparation des marins-pêcheurs, d'entraînement, de formation, d'achat de matériel, c'était pour une journée comme aujourd'hui en fait. Hein. Je pense que les hommes sont prêts. Les pêcheurs sont prêts, la Marine nationale est prête à commander tout ça. Et on est les seuls en Europe à posséder cette flottille de dépollution. Moi, je suis confiant. Je suis sûr que les pêcheurs vont à nouveau démontrer que le pays peut compter sur eux. Quand on sait que une tonne de mazout chalutée en mer, c'est 10 tonnes de déchets mazoutés qu'on n'aura pas à ramasser sur la côte. Moi, tout ce que je souhaite, c'est que le fioul reste le plus longtemps possible en mer avant de toucher la côte. C'est autant de temps que les marins pêcheurs et la Marine nationale auront pour nettoyer et pour en enlever un maximum.
Thierry Tomaso avec Pierre-Baptiste Vanzini. En Nouvelle-Zélande, l'auteur de la tuerie de Christchurch compte assurer lui-même sa propre défense. Il a été inculpé pour meurtre samedi. 50 personnes ont été tuées. Cette nuit, le gouvernement néo-zélandais s'est dit d'accord sur le principe de durcir les lois sur les armes. Et puis ce matin, des dizaines de tombes sont en préparation au cimetière de Christchurch après l'attaque donc des deux mosquées de la ville. Boeing est en train de finaliser le développement d'un de ses logiciels après le crash de l'Ethiopian Airlines. Le manuel de formation des pilotes est aussi en train d'être révisé. Les boîtes noires ont montré des problèmes similaires sur les circonstances des deux récents crashs de ce type de Boeing.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Céline, vous me disiez hors antenne que dans la foulée de la venue exceptionnelle du Premier ministre Édouard Philippe sur Europe 1 vendredi, vous comptiez faire une annonce.
J'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle.
Écoutez, je vote pour vous, je me vois très bien Première Dame. Je pourrais jouer à FIFA toute la journée.
J'ai dit ça, moi.
Bah, visiblement, oui, c'est vous.
Europe 1.
Il est 6h06, Mathieu Noël. Moi, je vote pour vous, Céline.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et ce matin, après qu'il a été vandalisé samedi soir sur les Champs-Élysées avec d'autres lieux symboliques du luxe parisien, Fabrice Dameda retrace pour nous l'histoire du Fouquet's.
Il est 6h07, Mathieu Noël.
L'heure d'un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Oui. Une journée encore mitigée, on va
Oui,
dire.
C'est vrai. Avec encore des nuages, des éclaircies, des averses. On aura de la neige sur les reliefs, un grand soleil près de la Méditerranée. Mais un ciel encore bien couvert sur la pointe nord-ouest. Les éclaircies seront quand même beaucoup plus nombreuses cet après-midi. Le ciel va même s'éclaircir au fil des jours. On aura encore un ciel assez gris mercredi au nord de la Loire. Mais dès jeudi et jusqu'à la fin de la semaine, le soleil sera de retour. Les températures très douces même l'après-midi. Par contre, elles seront encore très fraîche ce matin, comme ce matin d'ailleurs.
Merci Céline. Eva Rock.
À l'occasion de cette journée mondiale du recyclage, on vous demande depuis ce matin 5h si vous êtes des as de la récup et puis quels sont les petits gestes au quotidien que vous faites pour tenter de sauver la planète. Eh bien, Daki Homo Micro nous dit « En tant que plongeur, je suis sensible à mon environnement, à mon boulot, j'ai supprimé gobelets et tasses en plastique, chacun son mug en céramique et pas de touillettes. » C'est un peu comme chez nous, hein, on a fait pareil à Europe 1. Et puis Sophie nous dit « On trie depuis longtemps nos déchets, on pourrait encore faire mieux en achetant en vrac par exemple, mais on n'a pas les magasins à proximité pour le faire. Il y a aussi des petits bémols à tout ça. Merci beaucoup. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup, Eva Rock.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À l'heure d'ouvrir avec Jérôme Lacroix le journal des sports, j'aimerais ce matin vous lire ce message d'auditeur. Mathieu, la semaine dernière, tu as fait ton beurre d'un off où on entendait Fabrice Dalméda chanter Clo-Clo. Ce n'était pas très dur puisque Dalméda avait vraiment chanté Clo-Clo. Mais si tu es vraiment malhonnête, tu réussirais à faire chanter du Clo-Clo à quelqu'un qui n'a pas chanté du Clo-Clo, comme Jérôme Lacroix. La demande est vicieuse, mais à ma portée, je crois.
Elle a les yeux bleus.
Belinda Bencic. Belinda Bencic.
Comme quoi, avec un peu de malhonnêteté, on peut faire des miracles. Merci. Jérôme, on passe au journal des sports. À la une, il faut bien rire parce que la une, ouais, la une, quand on est comme moi supporter de l'OM, voilà, quand on est supporter de l'OM, la une n'est pas rieuse. Paris fait la loi.
Oui, c'est le titre ce matin à la une du journal La Provence. Paris fait la loi. Toujours pas de victoire, et oui, pour les footballeurs marseillais face aux rivaux parisiens, ça fait presque 8 ans maintenant. Hier, défaite 3-1 au Parc des Princes en clôture de la 29e journée de Ligue 1. Germain, buteur pour l'OM. Mbappé, Di Maria pour Paris, l'Argentin, auteur de 2 buts et une passe décisive face à des Marseillais réduits à 10. Dès l'heure de jeu, le gardien Mandanda.
Ah, mais c'est pour ça.
A été exclu. Ouais, pas que pour ça.
Ah, oui, quand même.
Non, mais ils ont fait un bon match.
À 10, on risquait pas de gagner contre Paris quand même.
Il n'y a plus de gardien.
C'est vrai que ça compliquait.
Il n'y a plus de gardien, imaginez. Une cage vide. C'est plus facile de marquer des buts.
Il a remplacé. Bref. L'animation, c'était un bon match. L'animation, elle était aussi beaucoup dans les tribunes. Et oui, parce que les supporters les plus fervents du PSG ont fait brûler des fumigènes et exploser des bombes agricoles. Du bruit après avoir boycotté les 20 premières minutes du match, ils avaient déserté leur tribune. Ils sont toujours fâchés après la rocambolesque élimination en Ligue des Champions.
On est toujours déçus du match contre Manchester.
Manchester, c'est dur. Réconciliation, il n'y a pas de réconciliation. Il faudra attendre l'année prochaine, encore une fois.
Là, ils gagnent contre Marseille, c'est il faut, parce que c'est le classico, mais non, on leur en veut un peu encore.
Les Parisiens encore plus premiers ce matin, 20 points d'avance sur Lille. Les Marseillais sont quatrièmes derrière les Lyonnais, victorieux 3-2 de Montpellier. À noter la sixième place de Reims qui a battu Nantes 1-0.
Le week-end prochain, pas de Ligue 1.
Et non, parce que cette équipe de France éliminatoire de l'Euro 2020. Vendredi, Moldavie-France et lundi prochain, France-Islande. Rassemblement à Clairefontaine ce midi. Anthony Martial blessé et remplacé par Thomas Lemar. Des nouvelles des Bleus du rugby. Et dans la foulée d'un tournoi destination un peu réjouissant et à 6 mois du mondial, le président de la fédération Bernard Laporte songerait à renforcer le staff autour du sélectionneur Jacques Brunel. Le nom de Fabien Galthié, ancien entraîneur de Toulon, revient avec insistance. Et puis en top 14, le coup de force des Toulousains, plus que jamais premier du classement, victoire hier, 53-21 contre Lyon en clôture de la 19e journée.
Personnellement, je le savais puisque c'est mon neveu et que c'est moi personnellement qui lui a pris le planté du bâton, mais Clément Noël confirme qu'il est bien la révélation de l'hiver.
Et le jeune skieur vosgien, 21 ans, remporte le slalom des finales de Coupe du Monde. Ça se tenait en Andorre et de 3 slaloms remportés cet hiver, il termine 2e du classement général, juste derrière la star autrichienne Marcel Hirscher. 8 ans qu'aucun bleu n'avait connu telle réussite.
C'est super, c'était une super ambiance, une super piste et je suis vraiment content de finir la saison sur une super note comme ça. On espère toujours jouer devant et c'est ce que j'ai réussi à faire, pas tout le temps mais assez souvent quand même, donc c'est cool.
Un mot de handball et un premier titre cette saison pour le PSG, c'est la Coupe de la Ligue, victoire 31-25 sur Montpellier en finale.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jeu.
Il a perdu Roger Federer, pas de 101e titre à Indian Wells aux États-Unis. Le tennisman suisse battu en finale par l'Autrichien Thiem. Et puis côté dame, la belle surprise Bianca Andreescu, qui est dans le coup à 18 ans. Premier grand titre pour la Canadienne.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Un journaliste talentueux, doublé d'un homme raffiné et toujours classe, comme Céline Dacosta a encore pu le constater vendredi, alors qu'elle évoquait hors antenne un classement des villes les plus chaudes.
Classement par ville de la libido la plus élevée. Aix-en-Provence. Vincent 1, Paris en 2, Boulogne-Billancourt en 3.
C'est plus Albi depuis que je suis parti.
Le Patrick Sébastien du News. Prenons vite de la hauteur avec Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour à tous.
Samedi, le Fouquet's, un célèbre bar et restaurant parisien situé sur les Champs-Élysées, a été incendié. C'est un symbole historique selon vous ?
Le Fouquet's a toujours représenté le chic et une certaine élite parisienne, aujourd'hui vomie par l'extrême gauche et une fraction des gilets jaunes. L'établissement tire son nom d'un de ses premiers propriétaires, Louis Fouquet. Ce fils d'un épicier à l'opulente boutique rue de Rivoli le rachète en 1899. Il veut en faire un lieu à la mode, comme Maxim's, d'où le nom Fouquet's. Il propose une carte à l'anglaise pour attirer des touristes fortunés. Très vite, des personnalités hautes en couleur le font entrer dans l'histoire, comme Santos Dumont, l'aviateur qui entraîne ses amis pour fêter son premier vol en 1903. Et avec les années folles, le cinéma puis le show business y viennent. Tino Rossi en fait son QG, Jean Gabin, Lino Ventura ou Charles Aznavour sont parmi les habitués.
Et c'est devenu un pôle de la haute société parisienne.
Oui, avec ses moments forts. Le dîner des Césars, qui depuis 1976 s'y tient. Le prix Roger Nimier, un prix littéraire, dès 1963 y est remis. Ou encore le cocktail des écrivains chaque année. Et cette nuit, du 6 mai 2007, quand les amis de Nicolas Sarkozy s'y retrouvent après son élection. Pourtant, Alors que se profile la transformation en galerie commerciale de ce lieu, c'est la gauche qui intervient, avec un comité composé de proches de François Mitterrand qui obtient de Jacques Lang, le ministre de la Culture, le classement au monument historique en 1990.
L'incendie touche donc une pièce du patrimoine.
Bah oui, ce restaurant est devenu un lieu de mémoire, mais pour les casseurs de l'extrême gauche, ce symbole du capitalisme doit disparaître, peu importe que partent avec lui peu importe que les flammes emportent avec elles des traces de notre gloire passée.
Vous êtes ému, on sent que vous êtes un client du Fouquet's et que donc Fabrice, tout ça vous touche personnellement.
Pas du tout.
Merci beaucoup Fabrice Delmed, à l'histoire et à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve demain peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue, 2 heures d'actu et d'invités qui la font à 6h20 alors que démarre aujourd'hui la semaine des médias à l'école. Nous accueillons le cofondateur de la plateforme vidéo Spicy, spécialisée dans les documentaires. Comment parler d'actualité avec les enfants? Comment leur apprendre à décrypter les images au quotidien? Au lendemain d'un week-end de nouvelles violences urbaines à Paris, on en parlait, beaucoup de parents s'interrogent. On en discutera avec notre invité. En tout cas, je suis content. J'ai observé Céline et Eva durant les coupures pub et visiblement, elles ont bien préparé l'interview en surfant intensément sur Spicy. Enfin, à moins que ce soit un autre site.
Tu veux que je te montre un truc de dingue?
Ah oui, j'ai bien un truc de dingue.
Oh, trop mignonne. Oh, regarde comme elle se met sur ses petites pattes arrière.
C'était bien Spicy que vous regardiez. Hein.
Tout à fait.
Oui,
c'est un documentaire animalier sur Spicy.
Ah oui, d'accord, merci.
Bon réveil à tous, il est 6h16.
Il est 6h19, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Édouard Philippe va faire des propositions à Emmanuel Macron aujourd'hui après un samedi de violence sans précédent sur les Champs-Élysées. Le gouvernement reconnaît qu'il y a eu des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité. Hier soir, 92 personnes se trouvaient toujours en garde à vue. Boeing est en train de finaliser le développement d'un correctif du système antidécrochage dont le fonctionnement est mis en cause après le crash de l'Ethiopian Airlines. Les données des boîtes noires ont mis en évidence des similarités claires avec le crash d'un appareil du même type de Lion Air au large de l'Indonésie en octobre dernier. Enfin, en football, le PSG a dominé l'OM 3-1 hier soir, toujours privé de Neymar et Cavani. Les Parisiens ont battu les Marseillais, notamment grâce à 2 buts d'Angel Di Maria.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 18 mars. L'actualité, c'est aussi le lancement aujourd'hui de la semaine de la presse à l'école. Comment parler d'actu avec les enfants? Comment leur apprendre à décrypter les images au quotidien? Faut-il des cours d'éducation aux médias? Bonjour Jean-Bernard Schmitt.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de la plateforme de documentaires à la demande Spicy, créateur de l'émission Escape News, présentée par Thomas Soto sur France 4, au cours de laquelle les enfants apprennent à dénicher les fake news, les infox en français, et vous intervenez aussi dans des écoles pour évoquer ces problématiques. Et c'est vrai en ce moment qu'entre l'actualité elle-même et le mode de consommation de cette actu via les chaînes info qui tournent souvent en boucle dans nos salons, on se pose pas mal de questions vis-à-vis des enfants. Moi par exemple, dimanche matin, j'ai volontairement pas mis les chaînes info de peur que mon fils de 7 ans me pose des questions du style pourquoi ils ont tout cassé les gilets jaunes et du coup que je sois obligé d'entrer dans une longue explication pour distinguer le mouvement des gilets jaunes des casseurs qui prennent prétexte du mouvement, etc. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce qu'il faut toujours parler de l'actu aux enfants, même quand c'est compliqué, Jean-Bernard Schmitt?
Alors oui, il faut toujours parler de l'actu aux enfants parce que en fait c'est eux, ce sont eux qui vont vous en parler. En fait,
oui,
ils vont
revenir,
ils vont le savoir d'une manière ou d'une autre. Alors mieux vaut à un moment ou à un autre, en tout cas être armé pour répondre à leurs questions ou voir anticiper les choses en leur expliquant avec vos mots et surtout en faisant le tri de ce que vous voulez leur raconter, ce qui s'est passé.
Mais c'est pas toujours simple de savoir en fonction de l'âge de votre enfant, de savoir, on n'est pas toujours préparé aux questions qu'il nous pose en fait. Ce que je veux dire, c'est que nous, la manière dont on expliquerait par exemple la crise des gilets jaunes à un adulte n'est pas du tout la même de la manière dont il faudrait l'expliquer à un enfant. Comment on peut trouver des clés pour savoir comment leur parler de ça?
Alors justement, vous avez entièrement raison. L'idée que nous on défend chez Spicy depuis de nombreuses années maintenant, c'est que c'est finalement à l'école que ça doit se passer. En gros, le rapport à l'information, il a totalement changé. Entre les chaînes d'info, vous le disiez, mais aussi évidemment Internet, les réseaux sociaux, dès le plus jeune âge en fait, que les jeunes reçoivent de manière souvent isolée, sans les parents, sur leur portable, en le partageant avec leurs copains. Il est hyper important désormais de pouvoir donner dès le plus jeune âge des clés, une sorte de boîte à outils, d'armer intellectuellement les enfants puis les jeunes à comprendre l'information.
Cette boîte à outils, moi je veux cette boîte à outils.
Alors la boîte à outils, alors il y a plusieurs façons. Nous chez Spicy, ouais, on en apporte une partie, mais puisqu'on est dans la semaine de la presse à l'école, l'idée c'est que des médias, nous, vous, etc., puissent aider l'éducation nationale à acquérir et à utiliser cette boîte à outils. Donc, nous, ce qu'on défend depuis très longtemps, c'est que l'éducation aux médias doit devenir une matière à part entière à l'école.
D'accord.
Dès l'école, puis le collège, puis le lycée, avec des gradations différentes. En gros, ça doit rentrer, comme le français, comme les maths, comme l'histoire, dans la palette d'enseignements fondamentaux à l'école.
Les fameuses fake news dont on parle beaucoup, et dont les infox en français, est-ce que les enfants sont réellement plus influencés par les infox que les adultes ?
En fait, ils ne sont pas nécessairement plus influencés, mais il faut partir du principe, et ça c'est pas un problème, mais c'est une évidence, qu'ils sont moins armés à la base. Mais c'est normal, ils n'ont pas le bagage intellectuel, historique, culturel, c'est tout à fait normal. Et puis surtout, donc, ça veut dire moins de recul, donc une capacité à pouvoir partager, commenter très très vite, etc. Donc c'est normal. En fait, il faut qu'ils puissent acquérir un savoir fondamental que les adultes, et là, malheureusement on se rend compte que ça ne suffit pas vu tout ce qu'on voit, mais que les adultes peuvent avoir de manière plus prononcée. Les jeunes, les enfants ne l'ont pas ça, donc c'est normal qu'ils soient à un moment ou un autre plus friables et plus perméables aux infox.
Eva Rock.
Comment vous faites concrètement dans les écoles pour les informer sur ces infox et d'une façon générale sur le décryptage aux médias ?
Alors, nous, on part du principe que justement, il faut être dans la pratique. C'est ça qui est assez amusant. Donc, on en reparlera d'ailleurs, c'est ce qui a présidé aussi à l'idée de Escape News, d'être aussi dans du ludique, dans du pédagogique, mais il faut être dans la pratique. En gros, je vous donne un exemple. Alors, ça s'adresse plutôt aux lycéens, mais en fait, c'est un peu la même chose avec tout le monde. On a créé des contenus, on a été très en pointe sur les contenus, sur la lutte contre les théories du complot. Et bien, très vite, quand on a lancé nos contenus et nos docs sur les théories du complot, on a été contacté par des enseignants qui nous ont dit « Je ne sais pas quoi répondre à mes élèves sur ces questions-là, venez m'aider. » Et en gros, nous, on leur montre des docs, on les met vraiment le nez dedans et après, on les fait pratiquer. C'est-à-dire qu'on leur donne des codes et on leur dit « Bah écoutez, vous voulez savoir comment ça fonctionne ? Utilisez-les. » Donc on leur dit par exemple, fabriquez une théorie du complot, réfléchissez dessus et après, argumentez les uns des autres pour essayer de défendre vos points de vue. Et la pratique, vraiment, est essentielle. Avec les plus jeunes, on tente de leur faire fabriquer un reportage à partir d'une vraie et une fausse histoire à partir d'un même reportage. Et le fait de mettre, on pourrait dire, les mains dans le cambouis, ça leur donne les clés en fait, de compréhension.
Est-ce que ce sera ma dernière question, mais ça va pas dans votre sens. Est-ce que le problème, c'est pas tout simplement que les enfants sont trop exposés aux écrans? Il y a beaucoup de pédopsychiatres qui disent que de toute façon, le problème, c'est la toxicité des écrans, au-delà de ce qu'on y voit ou ce qu'on y apprend. Est-ce que vous, à Spicy, bon, ça va pas dans votre sens, mais est-ce que vous prenez une limitation du temps d'écran pour les enfants?
Alors, je vais vous dire.
Vous êtes embarrassé là.
Ouais, je vais prêcher contre ma paroisse, mais et en tant que père de famille, ouais. Évidemment.
Évidemment.
De toute façon, alors pour prendre une expression que moi j'aime bien, j'ai le temps d'intelligence disponible dans une semaine. On va prendre une semaine. Il n'est pas extensible. Donc
surtout pour les Maroc.
Mathieu.
Oh, c'était facile. Je suis désolé.
Non, mais il n'est pas extensible. Évidemment. Donc c'est pas possible. Donc évidemment.
Soyons raisonnables.
D'où l'intérêt de choisir et de trouver les bonnes sources.
Merci beaucoup, Jean-Bernard Schmitt. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Spicy, média digital consacré à des documentaires et des reportages exclusifs. Escape News, c'est tous les samedis sur France 4 à 18h10. Par ailleurs, Europe 1 et la chaîne Gulli se mobilisent à l'occasion de cette semaine de la presse à l'école. Plusieurs classes viendront participer aux différentes émissions de la station.
Et le grand soir, le grand journal du soir avec Mathieu Béliard s'installera.
Et non pas le grand soir.
Oui, s'installera au lycée Georges Dumézil de Vernon en Normandie. Europe 1 va proposer une expérience exceptionnelle à ses lycéens de 19h à 20h. Ils vont pouvoir interroger leur ministre, Jean-Michel Blanquer. Et c'est eux qui vont construire ce grand journal du soir.
Merci.
Europe 1. Il est 6h25, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 du génialissime David Doucan. La météo avec un temps de saison, ma foi, des giboulées de mars.
Il est 6h29, Mathieu Noël.
Juste avant de retrouver le journal du très en forme ce matin, je vous l'annonce, David Doucan. Voici la météo de Céline Dacosta. Céline, un temps mitigé aujourd'hui.
Oui, ciel souvent couvert, quelques
éclaircies.
Le temps est
moins en forme que David Doucan.
Un petit peu moins, mais il va devenir, hein, puisqu'au fil des jours, on va avoir de plus en plus de soleil. À partir de jeudi, il va même faire très très beau jusqu'à la fin de la semaine.
La température monte aussi.
Exactement, l'après-midi.
Calmez-vous,
par contre,
calmez-vous.
Matin, ça sera très frais. Et aujourd'hui, c'est également le cas, avec une moyenne de 10 à 14 degrés cet après-midi, 15 à 17 près de la Méditerranée, où on aura encore beaucoup devant aujourd'hui.
Merci Céline.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 éclectique qui se passionne pour tous les secteurs de l'actualité, la politique, l'économie, sans oublier le sport, une des raisons de vivre de notre consoeur Céline Dacosta,
ah bon,
comme nous le découvrions jeudi dernier au lendemain de la victoire de Porto en Ligue des Champions.
Ah.
Tiens, mais Porto, c'est ton club, Porto? Non, pas du tout.
Porto, c'est le Porto, toi.
Bon, t'as le club et puis t'as les caves à côté, si tu veux. Bon. Tu as un petit crochet, quoi.
D'ailleurs, je préfère le Porto blanc au Porto rouge.
Bref, avant de passer au journal, une autre info primordiale, David Decan.
J'aime les canapés en cuir.
Parfait, tous les voyants sont au vert, on peut y aller.
Les écouteurs Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Voici le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Le regard hébété des commerçants sur leurs boutiques saccagées, l'incrédulité devant les kiosques en cendres, les Champs-Élysées sont-ils devenus les champs sinistrés? Reportage dès le début de ce journal. Autopsie d'un désastre, le gouvernement reconnaît des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité, lesquels? La réponse de notre spécialiste dans un instant. Et enfin, le procès de Bernard Tapie. Cette semaine, les juges se pencheront sur le cas de Stéphane Richard, l'actuel patron d'Orange, était à l'époque le bras droit de la ministre de l'économie, il ne voit pas ce qu'il fait sur le banc des accusés.
Europe 1.
Ce 18e samedi de mobilisation fut-il celui de trop, des gilets jaunes et 1500 casseurs, tout cela s'entremêle et le résultat, ce sont 60 boutiques vandalisées sur les Champs-Élysées, des kiosques à journaux incendiés, une banque aussi, l'immeuble d'habitation au-dessus avec, les habitants évacués in extremis. Mais passé le choc, les commerçants ont voulu hier se remettre au travail le plus vite possible. Reportage Jean-Sébastien Soldaini.
Il y a bien quelques vitrines condamnées par des planches en bois comme barricadées, trop de casse pour ouvrir rapidement. Mais sur les trottoirs, c'est l'affluence des grands jours. Les badauds se mêlent aux touristes et garnissent les terrasses des cafés. Rebecca vient de Los Angeles.
On ne voit pas de vraie différence. Chacun veut profiter des loisirs qu'offre cette avenue, de son histoire. Je dirais que l'ambiance est normale à 90%, car on voit quand même des dégâts sur la devanture de chaque magasin ou restaurant.
En face de la terrasse du Fouquet's, recouverte par une bâche, Samy, vendeur de journaux, est venu faire un rapide état des lieux. Son kiosque a souffert, mais il rouvrira ce matin.
On repart, on est obligé, que voulez-vous faire? On ne va pas baisser les bras parce que, voilà, vous voyez, tous nos voisins, on leur a brûlé leur kiosque. Ils n'ont plus de boulot, plus rien, ils sont sur le carreau. Donc j'ai ouvert, j'ai vu que derrière ça s'ouvrait, même malgré que tout était cassé. Donc on a eu du bol.
Du bol, comme cette vendeuse de chaussures dont la vitrine est simplement fêlée. Elle admet, avec les curieux venus voir les dégâts, ce fut un bon dimanche de travail, mais loin d'être suffisant pour compenser les pertes du samedi.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Alors que s'est-il passé? Comment 1500 casseurs ont-ils pu se déchaîner ainsi? Les policiers étaient-ils assez nombreux? Pourquoi n'ont-ils pas répliqué plus durement? Le gouvernement a reconnu des dysfonctionnements, lesquels? Pierre de Cossette.
Dans toutes les strates du ministère de l'Intérieur, le même constat, échec, mais ce sont les analyses qui divergent. Oui, les violences ont été anticipées, mais le nombre de casseurs potentiels a été sous-estimé. 1500, dit-on place Beauvau, le double des prévisions. Des contrôles en amont avaient été prévus, dans les gares notamment, mais contrairement au mois de décembre, les fouilles avant-hier n'ont presque rien donné. Et pourtant, un policier parle de ce samedi comme du plus violent depuis le début du mouvement. Des professionnels de la casse, dit-il, capables de déceler des pavés et qui s'organisaient depuis plusieurs semaines. Avait-il assez de policiers et de gendarmes alors? Près de 5000 pour tout Paris, mais beaucoup pour protéger un grand périmètre autour de l'Élysée et pour la marche pour le climat. Certains estiment que les forces présentes près des Champs-Élysées ne suffisaient pas et pointent aussi l'aide apportée par des gilets jaunes aux casseurs en noir pour compliquer les interpellations. Plusieurs hauts gradés, eux, considèrent que ce n'est pas une question de moyens, mais un manque de coordination entre CRS, gendarmes mobiles et unités de la préfecture de police. Préfecture, comme souvent, pointée du doigt, car c'est elle qui était aux manettes.
Pierre de du service police-justice d'Europe 1 et j'ajoute que le ministre de l'Intérieur sera auditionné demain par la commission des lois du Sénat. Christophe Castaner devra s'expliquer devant les parlementaires. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui sera lui aussi entendu, recevra aujourd'hui des représentants des secteurs d'activité touchés. Le projet de loi santé arrive ce lundi à l'Assemblée nationale, la fin du numerus clausus, une nouvelle carte hospitalière, un effort accru sur le numérique. Le gouvernement entend permettre un meilleur accès aux soins sur le territoire. Les oppositions ne sont pas convaincues. Le cardinal Barbarin sera ce matin à Rome. Il sera reçu au Vatican. Philippe Barbarin présentera sa démission. Je vous rappelle qu'il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation des abus sexuels d'un prêtre.
À suivre dans ce journal, retour à Chemnitz en Allemagne. Fin août, un meurtre avait déclenché d'énormes manifestations anti-migrants. Le procès du tueur présumé commence aujourd'hui. À tout de suite.
Bon réveil, il est 6h34.
Europe 1.
Il est 6h36, Mathieu Noël.
La suite du journal, David Decan. Nous retournons à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne.
Oui, fin août, la mort d'un Allemand avait mis le feu aux poudres avec des manifestations contre l'immigration infiltrées par les néo-nazis. On avait vu des saluts hitlériens, des étrangers pris à partie, des restaurants arabes ou juifs attaqués. Le procès du meurtrier présumé, un Syrien de 23 ans, s'ouvre aujourd'hui dans une région où la tension n'est pas retombée. La correspondance d'Hélène Kohl pour Europe 1.
Des hommes en noir qui hurlent le nom d'Adolf Hitler dans les rues de Chemnitz. C'était il y a 7 mois. Aujourd'hui, le même groupe de hooligans s'est donné rendez-vous dans la ville de nouveau. On attend 4000 néo-nazis officiellement pour l'enterrement de l'un des leurs. La police redoute des débordements racistes en ce jour symbolique d'ouverture de procès dans une ville où les réseaux d'extrême droite sont très influents et montent les habitants les uns contre les autres, racontent ces retraités.
Il y a des choses vraiment moches qui se passent ici, dans le même genre qu'en août dernier.
La situation a même empiré. Il y a des tensions frontales.
Dans ce contexte, le procès a été délocalisé à 80 km de là, dans la capitale de la région, Dresde, qui est aussi le fief de Pegida, le mouvement anti-réfugié allemand, qui lui aussi va mobiliser ses troupes ce soir. Les anti-migrants estiment que l'Allemagne est trop laxiste avec les réfugiés criminels. Le principal suspect dans la mort du germano-cubain à Chemnitz n'a toujours pas été arrêté. C'est son complice présumé qui sera jugé à partir d'aujourd'hui, un jeune Syrien dont on n'a pas retrouvé les traces ADN sur la scène de crime. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
En Nouvelle-Zélande, après le massacre de Christchurch vendredi, le gouvernement s'apprête à durcir la législation sur les armes. L'auteur de la tuerie a annoncé qu'il se défendrait seul, sans avocat. Un jeune néo-zélandais qui avait relayé sur Internet la vidéo du carnage a été inculpé. Je vous rappelle qu'un militant d'extrême droite a attaqué deux mosquées à l'arme lourde et a assassiné 50 personnes. Les boîtes noires du Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines commencent à parler. Le gouvernement éthiopien affirme qu'il y a des similitudes claire entre le crash de la semaine dernière et celui d'il y a quelques mois en Indonésie. Boeing a annoncé la correction très prochaine du logiciel anti-décrochage de ses appareils. Le procès tapis, le point d'orgue de cette deuxième semaine après-demain, avec l'audition de l'ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde à Bercy, aujourd'hui PDG d'Orange. Stéphane Richard dit n'avoir vu Bernard Tapie que trois fois et il vit sa mise en cause comme une injustice. Il demande la relaxe. Chloé Triomphe.
C'est une hypothèse que Stéphane Richard n'imagine même pas, tant le patron d'Orange juge surréaliste les accusations dont il fait l'objet. À son poste de directeur de cabinet à Bercy, il a rencontré Bernard Tapie trois fois avant la validation de l'arbitrage, dont une fois lors d'une réunion à l'Élysée. Mais sa défense avance qu'il n'a pas choisi les juges-arbitres, ni même participé à l'élaboration du compromis qui a octroyé 400 millions d'euros à Bernard Tapie. Stéphane Richard vit donc comme une profonde injustice sa place sur le banc des prévenus. Il ne s'est absenté du procès que deux jours pour suivre Emmanuel Macron lors de son déplacement en Afrique au titre de patron d'Orange. Il n'a jamais revu Bernard Tapie depuis une dizaine d'années et ne lui adresse pas la parole dans la salle où il observe avec une inverse retenue ses coups de colère. Cette semaine, il devrait donc tenter de faire entendre au magistrat sa profonde révolte, son sentiment de subir un acharnement après une instruction qu'il estime à charge. Un cauchemar, disent ses proches, qui en coulisses relèvent que sa ministre Christine Lagarde avait uniquement été reconnu coupable de négligence dans ce dossier et n'avait écopé d'aucune peine devant la Cour de justice de la République.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Vous avez regardé le match hier, Mathieu?
Ben, j'ai regardé les 30 premières minutes qui étaient très favorables à l'Olympique de Marseille. Je suis allé me coucher serein, serein sur la victoire forcément à venir.
Ouais. Le réveil a dû être difficile.
Le réveil a été un petit peu difficile. Bon, je me suis réveillé à 2h20 du matin. Ouais. Justement, j'ai regardé et là, ça a été la déception.
Là, ça a été dur. Ouais, bon, dur. Alors, on sera sympathique avec vous parce que c'est pas facile. C'était le Classico hier soir au Parc des Princes, donc en Ligue 1. Et le Paris Saint-Germain a facilement battu l'Olympique de Marseille. Battu l'Olympique de Marseille. Je répète bien, battu l'Olympique de Marseille. 3 buts à 1.
Merci. C'était le journal.
On rappelle peut-être le score. 3 buts à 1, Mathieu.
C'était le journal de David Doucan. Journaliste méticuleux, perfectionniste, mais camarade d'une gentillesse et d'une bienveillance épatante, comme a pu le vérifier Céline Dacosta mardi dernier, alors qu'elle s'excusait d'avoir parlé sur un de ses lancements.
C'est ma faute, je lui parlais dans les ordres et je pense que du coup...
D'accord. Bah, si tu pouvais essayer de ne pas saboter le journal, ce serait gentil de ta part. Hein. Merci. On te remercie tous, la rédaction, tu sais, les 100 personnes qui travaillent. Qui s'épuise, tu vois, pour essayer d'apporter de l'information. Te remercie.
Oh, Céline, ne vous formalisez pas, il est bougon comme ça, mais c'est une crème à l'intérieur. On passe à la météo. Ah oui, mais vous pleurez de rire, mais en revanche, je ne vois pas. Voilà. Je vois la phrase. Une journée encore un peu mitigée. Moi, j'aurais pu le deviner.
Ça ne va jamais finir ce numéro. Hein.
C'est vrai que c'est un numéro.
Elle tend la feuille, vous n'arrivez pas
mais
à lire.
Elle tend la feuille, c'est quand même. Elle tremble, parce qu'elle n'a pas eu sa dose de Porto. Et donc, elle tremble. Et donc, la feuille tremble, je n'arrive pas à lire, en fait.
Écrivez plus gros, Céline.
Mais je le fais de temps en temps, puis là, j'ai oublié.
Vous le savez maintenant.
Journée mitigée, donc.
Voilà, c'est vrai. Avec des nuages, des éclaircies, des averses, on aura de la neige sur les reliefs, encore du vent, surtout près de la Méditerranée. Mais là, c'est le soleil qui va briller. Les éclaircies seront quand même plus nombreuses cet après-midi. Et le ciel va s'éclaircir au fil des jours. On aura encore un ciel assez gris mercredi au nord de la Loire, c'est vrai. Mais dès jeudi et jusqu'à la fin de la semaine, le soleil sera de retour et les températures très douces l'après-midi, mais très fraîches le matin.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Vous le savez, debout les copains, c'est la bonne humeur, les chansons guillerettes, mais également l'analyse, signée parfois Céline Dacosta.
Allez.
Aujourd'hui c'est vendredi, on va danser toute la nuit.
Comme Castaner.
Et oui, pas de tabou pour les éditorialistes du 5-7 d'Europe 1, politique, économie, médias. Les trois fantastiques arrivent au programme du jour. Un documentaire sur Jacques Chirac, le blues des restos d'entreprise qui n'ont plus la cote auprès des salariés. Et cette question, la loi anti-casseurs aurait-elle permis d'éviter les pillages de samedi sur les Champs-Élysées?
Bon réveil à tous, il est 6h41. Il est 5h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
C'est l'heure des comptes, la réponse du gouvernement très attendue après le week-end calamiteux à Paris, le saccage des Champs-Élysées. Matignon a reconnu des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité. Une réunion est prévue à 11h30 à l'Élysée. Des annonces devront suivre pour essayer de mettre un terme à la dérive violente qui s'exprime chaque samedi depuis maintenant 18 semaines. Le projet de loi santé arrive aujourd'hui à l'Assemblée. La fin du numerus clausus, une nouvelle carte hospitalière, un effort accru sur le numérique. Le gouvernement entend permettre un meilleur accès aux soins sur le territoire. Les oppositions ne sont pas convaincus. Enfin, du football, c'était le classico hier soir au Parc des Princes en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique de Marseille 3 buts à 1, un but d'Mbappé, deux buts de Di Maria.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Chers auditeurs, c'est un véritable miracle dû à la bonté extrême et l'infinie mensuétude de Nikos Aliagas que je suis en mesure de ce matin d'annoncer l'arrivée en studio des trois fantastiques. Car en effet, ils ont bien failli n'être plus que deux. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique. Quant à notre spécialiste éco, Axel de Tarlet, il devrait actuellement pointer normalement au Pôle emploi spectacle du 15e arrondissement, la joue encore tuméfiée par ce magistral Nyon que Nikos aurait dû lui envoyer vendredi à l'issue d'une matinale où les mots ayant dépassé sa pensée, Axel de Tarlet a malencontreusement déclaré ceci.
Apprenez le français, ça a plus d'avenir que l'espagnol. N'en déplaise à Nikos qui nous fait des leçons d'espagnol écoutées sans arrêt.
Entiendo más que hablo de verdad, pero me gusta hablar.
Eh ben voilà, mais il ferait mieux d'apprendre le français. Non, non, mais il le parle très bien, pardon. Oh, la boulette.
La bouletos. La bouletos. Axel, j'ai croisé Nikos, vous êtes clairement en sursis. Mon conseil, plus de blagues. On commence plutôt par la politique avec vous, Mickaël Darmon. Après les manifestations des Gilets jaunes samedi, l'organisation et la stratégie des forces de l'ordre sont de nouveau sur la sellette. Comment analyse-t-on ce qui s'est passé du côté du gouvernement?
Eh bien, les différents responsables de pôle des affaires intérieures, hein, de la place Beauvau, Matignon, Élysée, bien, se sont concertés et tombe d'accord sur un regret. Si la loi anti-casseurs votée mais en cours de vérification par le Conseil constitutionnel avait été en vigueur, eh bien elle aurait permis par exemple d'interpeller en amont des casseurs connus et l'interdiction du visage masqué aurait aussi facilité l'identification de pilleurs selon un conseiller du Premier ministre. Il n'empêche, dans la deuxième fois, vous l'avez dit, depuis le saccage de l'Arc de Triomphe, la question se pose: que s'est-il passé avec les forces de l'ordre? Là encore, pas une seule réponse mais des pistes de réflexion. L'une d'entre elles touche à la polémique autour des LBD. Hein, vous savez, hein, les troupes conscientes de la polémique se sont-elles retenues? C'est une question qui s'est posée. Par ailleurs, également, le mode d'opération des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées donc a pu également changer le mode de réaction policier, puisque s'attaquer aux bâtiments et aux magasins change la nature de la confrontation et de la réponse policière. Tout cela a été mis sur la table lors de la réunion à Matignon hier. Et si un hommage a été rendu aux forces de l'ordre, effectivement, Édouard Philippe reconnaît des dysfonctionnements et fera de nouvelles propositions ce matin.
Cette nouvelle journée de mobilisation montre tout de même que rien n'est réglé alors que le grand débat touche à sa fin.
Et oui, un slogan sur les murs a retenu l'attention. Hein. C'est la fin du grand débat, mais pas du grand début. Donc il est certain, effectivement, que pointer la violence des pilleurs de samedi ne va pas suffire pour passer à autre chose. Plus de 3 mois après le saccage de l'Arc de Triomphe, ce qui s'est passé samedi, c'est aussi un avertissement. Parce que vous savez, depuis plusieurs semaines, on voit des mines satisfaites et des sourires entendus parmi les ministres et les responsables de la majorité. On est trop fort, on a réglé le problème. Et les mêmes qui reprochent journalistes de trop regarder le sondage, eh bien, se sont gargarisés aux études d'opinion dès qu'elles étaient un peu plus favorables pour la l'élection présidentielle. Alors là aussi, marteler le succès incontestable du grand débat, ça ne va pas suffire parce qu'un seul fait s'impose, rien n'est réglé. C'est pour cela que chaque geste est lourd de conséquences, aucune place pour les fêtes de fin de semaine ou les week-ends à la montagne pour les responsables du pays. C'est certes désagréable, mais c'est ainsi, il faudra des actes politiques forts parce qu'on le voit bien, la fièvre est loin d'être retombée.
Merci beaucoup Mickaël Darmon. Et après cette analyse politique, on reparle de choses essentielles. Notre estomac, les cantines en entreprise, Axel de Tarlet, ont de moins en moins la cote.
Eh bien oui, question, qui déjeune à la cantine à midi?
Moi.
Eh bien, vous êtes de moins en moins... Ben, c'est bien, mais vous êtes de moins en moins nombreux parce que de plus en plus, les salariés préfèrent déjeuner de leur côté à midi. Alors, il y a ceux qui sortent carrément de l'entreprise, qui vont s'acheter un sandwich ou se manger une salade dehors. Il y a ceux aussi qui se font livrer à domicile des sushis, des choses comme ça.
Au bureau, vous voulez dire?
Voilà, au bureau. Oui, pas à domicile, au bureau. Puis alors, comme ça coûte un peu cher, il y a aussi maintenant beaucoup de gens qui amènent carrément leur gamelle, leur petit
Tupperware.
Exactement.
Oui.
En Ile-de-France, un quart des salariés amènent leur Tupperware privé sur leur lieu de travail. Donc, il faut savoir que le marché du snacking a ainsi été multiplié par 2 en 10 ans. Alors, les causes, elles sont de 2 ordres. D'abord, vous avez tout un tas de gens qui se méfient maintenant de cette nourriture industrielle préparée dans des restaurants collectifs.
Mais est-ce que justement dans ces restaurants collectifs d'entreprise, il n'y a pas une évolution vers le bio ou vers des choses plus naturelles,
bien
j'imagine?
Bien sûr, bien sûr. Et l'autre vraie raison, je vais vous dire, c'est la montée de l'individualisme. En fait, les gens ne veulent plus... Les grandes tablées, on se retrouve avec Mademoiselle Jeanne de la 3e au compta pour reprendre la fameuse image de Gaston Lagaffe. Eh ben, ça, c'est un peu passé de mode. On peut le regretter, mais il y a une montée de l'individualisme en entreprise. On peut le regretter parce que ça a insufflé quand même un esprit d'entreprise, etc. Alors, la conséquence, pour Sodexo, qui est le numéro 2 mondial des cantines, numéro 2 mondial des restaurants d'entreprise, c'est quand même embêtant. Du coup, que fait Sodexo? Alors d'abord, il essaye un peu de changer l'ambiance, l'atmosphère de ces cantines en faisant moins des réfectoires, mais en faisant plus, vous voyez, des petits restaurants cloisonnés où il y a moins de bruit, où c'est plus privé, etc. Et puis sinon, que fait-il? Puisque les gens veulent déjeuner tout seuls à midi, Sodexo a racheté Food Sherry. C'est une start-up qui se propose de vous livrer sur votre lieu de travail votre repas. Alors le tout, c'est d'être compétitif. Mais vous voyez, voilà, c'est l'époque. Les grandes cantines, les grandes où on descendait tous à 12h30 au restaurant, c'est un peu fini. Maintenant, on déjeune chacun de son côté.
C'est un peu triste.
C'est un peu triste.
C'était la bonne époque, la cantine.
Oui, mais vous y allez moins, vous.
Oui, c'est vrai que j'y vais moins. Voilà. Ça, c'est dû à mes horaires, essentiellement. Je pense que j'irai
toujours
à la cantine.
Toujours une bonne
moi,
époque.
Si
vous venez
quand
journée.
Vous êtes avec
oui, tout
nous.
À fait.
Ouais.
Effectivement. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir?
Eh bien, je vous propose de regarder Mon Chirac par Jean-Louis Debré. C'est sur LCP à 20h30. Documentaire inédit. Un portrait de Jacques Chirac par un fidèle, un ami, Jean-Louis Debré. Alors, plus qu'un portrait, d'ailleurs, il s'agit plutôt du récit de la rencontre entre les deux hommes. C'est une histoire nourrie des témoignages notamment de Claude Chirac, de François Hollande, d'Yves Coppens avec qui Jacques Chirac aimait parler d'art. L'occasion pour Jean-Louis Debré d'ouvrir surtout sa boîte aux souvenirs avec quelques petites anecdotes comme celle qui suit, qui date de 1995 alors que Chirac est en campagne pour la présidentielle face notamment à Édouard Balladur. Debré, lui, s'inquiète un peu de son avenir. Eh bien, Chirac a la solution.
Eh bien, donc, j'ai une autre idée pour toi. On va ouvrir une agence de voyage, tu vas la tenir et moi je voyagerai, me dit Chirac. Et on a éclaté de rire. Et c'est une des rares fois où Chirac a imaginé, à l'instant, que peut-être il ne serait pas élu.
Alors c'est un portrait au cours duquel Jean-Louis Debré tient à rappeler que Chirac a de l'humour. La preuve, cet échange avec Michel Field, c'était à la télé.
Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif.
Merci.
Vous me dites, au fond,
vous
n'avez...
pas, hein.
Non.
Parce que 2 minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre, alors, s'il vous plaît.
Oui, je sais bien, malheureusement. Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé.
Alors, ne vous attendez pas à un film critique ou exhaustif sur Jacques Chirac. Il s'agit avant tout des souvenirs de Jean-Louis Debré. Le documentaire, à mon sens, est un peu trop hagiographique, avec une difficulté sur la forme, c'est que Jean-Louis Debré est tantôt le narrateur, tantôt l'interviewé. Donc, il y a un double jeu qui m'a un peu gêné sur la forme. Restent les anecdotes plutôt amusantes et un éclairage sur la passion de Jacques Chirac pour les arts premiers et pour le sumo. Vous allez comprendre pourquoi il aimait autant cette discipline. Et c'est assez bluffant. Et c'est à voir sur LCP à 20h30.
Merci beaucoup, Eva Rock. Merci, Axel de Tarlet, Mickaël Darmon. L'équipe des Trois Fantastiques sera de retour demain aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1. Il est 6h52, Mathieu Noël.
Debout les copains se termine, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nico Salegas, qui a 2 chouchous dans cette rédaction, moi, qu'il trouve...
humble, gentil, à l'écoute.
D'où ce petit surnom affectueux qu'il m'a trouvé, l'Otrokonos, ami précieux en grec, et Axel de Tarlet, qui semble, depuis vendredi, aimer encore plus que moi, puisqu'il l'a baptisé Megakonos, l'ami encore plus précieux.
Pardon.
Oui, pas trop tard, il arrive, mon conseil, cachez-vous sous la table.
Mathieu Noël. Tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.